France Musique.
Bonjour à tous et bienvenue dans le magazine de France Musique. C'est un modèle bizarre que je reçois aujourd'hui dans cette émission. Quelqu'un qui est à la fois musicien, je veux dire par là instrumentiste, mais encore compositeur et directeur d'institution. Trois casquettes pour un seul homme, c'est très étonnant. Bon, vous allez me dire qu'au XVIIIe siècle, tout le monde avait toutes ces casquettes-là. Comme quoi, c'est peut-être pas si étonnant que ça. À moins que nous recevions une sorte de baroque aujourd'hui. On va voir ça avec lui jusqu'à 13h. Nous sommes avec Bernard Faucroul.
Thank you.
Ein Festeburg ist unser Gott de Jean-Sébastien Bach, c'était Bernard Faucroul qu'on entendait ici à l'intérieur de son intégrale des pièces pour orgue de Bach en 1988, c'est assez vieux tout cela, mais enfin comment débuter une émission avec un organiste sans maître du Bach. Bonjour Bernard Faucroul.
Bonjour Lionel.
Et puis sans parler aussi de cette étrangeté d'un musicien qui devient directeur de festival, qui continue à être compositeur aussi, moi j'ai toujours ce souvenir de vous, je vous l'ai déjà dit, mais enfin je le redis une fois étonnant, il y a 2 ans je crois au Festival d'Aix, je me baladais en plein milieu du mois de juillet dans la ville et je vous vois un moment avec des partitions comme ça, vous sortiez de... Vous étiez allé toucher un orgue quelque part en plein milieu du festival, au moment où normalement les directeurs ont des valises jusque sous les narines. Comme quoi ça n'arrête jamais l'orgue. Hein.
Alors c'était au mois de juin, parce qu'en juillet c'est plus compliqué. Mais effectivement, c'est, oui, à la fois ça n'est pas évident de combiner tout ça, et en même temps c'est un formidable facteur d'équilibre, parce que le fait de pouvoir faire de la musique, de pouvoir se plonger dedans, c'est une manière de... immédiate et radicale, de couper et de se régénérer. Donc, c'est une chance que j'ai.
Ouais, c'est comme des casquettes qui, normalement, sont bien séparées. Ça vous pose des questions, des problèmes, de temps en temps, de passer de l'une à l'autre ?
Bah, ça fait pratiquement 25 ans maintenant que je fonctionne comme ça. Donc, je me suis habitué. Après, c'est vrai que, comme vous le disiez tout à l'heure, au 17e, au 18e, bon, c'était assez courant. Cavalli était organiste à Saint-Marc et il était compositeur d'opéra. Il a été, à un moment donné, comme Händel plus tard, quasiment propriétaire associé à la gestion d'un théâtre.
Aujourd'hui, producteur de leurs pièces.
Voilà.
Pour le dire
alors,
comme ça.
Ce qui était peut-être très différent à l'époque, c'est que tout le monde, tous les artistes et tous les arts parlaient un langage commun. Ça n'est plus vraiment le cas aujourd'hui et c'est ça qui est effectivement très particulier. C'est qu'il faut retrouver le moyen de parler des langages communs à travers les disciplines et les spécialités.
Vous êtes aussi un homme de plume, Bernard Faucroul, vous l'apprenez de temps en temps quand ça vous semble nécessaire. Il y a quelques mois, c'était au mois de novembre, je crois, vous avez écrit lettre ouverte au Premier ministre belge pour lui dire la situation musicale, ça va pas en Belgique, on est en train de rabioter partout des sous de la subvention culturelle en particulier dans le domaine musical, et c'est une forme d'engagement aussi ça.
Oui, j'étais très très choqué que la monnaie que j'ai dirigée pendant 15 ans soit confrontée à des problèmes avec ce qui est apparu globalement dans le pays comme une grande brutalité. Depuis lors, les choses se sont un petit peu calmées, un petit peu estompées. Je pense qu'il y a eu beaucoup de réactions, mais néanmoins, je pense que c'est une très très grave erreur que dans les situations que nous connaissons aujourd'hui de crise financière économique, de cibler la culture, parce que d'abord, les économies qu'on y réalise sont relativement marginales par rapport à l'ampleur des problèmes, et qu'elles ont des conséquences complètement contre-productives. Et donc, je pense que c'est essentiel, à condition bien sûr que les institutions fassent leur travail, c'est-à-dire ne se contentent pas de la routine et de répéter d'année en année la même chose, mais qu'elles soient offensives sur le plan de la création et de l'accessibilité, et du travail interculturel qui est à mes yeux absolument fondamental, et particulièrement ces jours-ci, je pense qu'on en mesure toute l'importance. Donc c'est plus important que jamais aujourd'hui d'investir dans la culture.
Est-ce qu'il n'est pas, enfin, j'allais dire, en train de se passer quelque chose? Est-ce qu'on n'a pas une chance, là, avec les événements tragiques qu'on connaît depuis une semaine, que les politiques, tout d'un coup, prennent conscience de cela? Que, évidemment, il y a les problèmes, on va dire, civilisationnels, économiques, tout ce qu'on en veut, politiques, mais qu'il y a aussi, à l'intérieur même de nos sociétés, des questions que la culture ne va pas régler, mais qu'elle est absolument indispensable à problématiser correctement.
Oui, je crois que si on y regarde bien, on peut trouver dans le travail de pas mal d'artistes, notamment de créateurs, à travers toutes les disciplines, des signes, on peut les trouver déjà ces dernières années, hein, de choses qui ne vont pas bien et qui doivent être corrigées. Je pense qu'en particulier, la manière dont les rapports entre les cultures se sont formés, cristallisés au courant des 19e et 20e siècles, ce n'est absolument plus acceptable et opérationnel dans le monde d'aujourd'hui, dans un monde global, dans un monde où, voilà, il y a des pays émergents, et il y a des cultures qui sont elles-mêmes absolument fascinantes, mais parfois en très très grande difficulté. Pensons, vous voyez, que l'opéra de Damas, par exemple, redonne depuis quelques semaines un plus grand nombre d'activités. Voilà, la Syrie est un pays qui était un pays d'une culture extraordinaire, qui souffre un martyr absolu. Et je crois très important aujourd'hui qu'en Europe, nous soyons davantage à l'écoute de ces artistes, de ces musiciens, des poètes, des gens de théâtre, des artistes plasticiens, et que leur vision du monde, dans leur altérité, mais aussi dans ce qu'elle a de très proche, de ce que nous pouvons partager avec eux, que nous puissions nous nourrir mutuellement de cela. Et je pense que si, parmi les réactions que vous venez d'évoquer, il y a plus d'attention à cela, plus de choses qui sont plus d'initiatives communes au sein du monde culturel, peut-être qu'on a la possibilité là d'avoir une sorte de sortie par le haut de ces tensions qu'on a connues et qui ont culminé la semaine dernière.
Je lui parle politique, il revient aux artistes, c'est une définition du bonhomme. Bernard Foucroul est avec nous jusqu'à 13h, on va causer du Festival d'Aix un peu plus tard, de vos derniers disques aussi, on a deux qui arrivent coup sur coup, Bernard, et puis de quelques maîtres anciens. Vésiné, extrait des pièces de clavecin en concert de Jean-Philippe Rameau, c'était les frères Keuken, enfin deux, des Sigisvald et Wieland, et Gustave Leonhardt qui était ici au clavecin. On va revenir sur Gustave Leonhardt, mais c'est Antoine, bon, réalisateur, qui nous a choisi l'extrait d'aujourd'hui. Il est bien tombé, j'ai l'impression, hein, Bernard.
Ah oui, c'est un enregistrement qui pour moi, qui me rappelle beaucoup de beaux souvenirs. C'est un disque que j'écoutais énormément il y a une trentaine d'années. Je ne sais plus exactement quand il est sorti d'ailleurs, mais je trouvais que il y a une sorte d'harmonie entre les musiciens et je trouve que ça n'a pas pris une ride aujourd'hui. Cette musique de Rameau, un petit peu nordique dans son interprétation,
oui,
mais absolument magnifique et chaleureuse.
Avec cette sécheresse, enfin bon sens du terme, cette exactitude rythmique celle de Leonhardt.
Ouais. Il y a une précision, un sens rythmique chez Leonhardt qui est absolument extraordinaire et qui n'est pas... Alors la pièce qu'on vient d'entendre, elle est... spectaculaire sur le plan justement de cette métrique un peu mécanique. Or, ce qui est impressionnant dans le travail de Leonhardt, c'est que ce sens rythmique lui permet une très grande liberté. Et je pense que c'est une très très grande leçon pour tout musicien, c'est que la liberté n'est possible que s'il y a une sorte de fondement, de structure sur laquelle on peut la déployer.
Leçons, dites-vous. Vous en avez pris 4 avec Gustave Leonhardt. C'est pas beaucoup, mais ça suffit.
Oui, c'était... je crois que j'avais 20 ans. Je suis allé à Amsterdam. J'ai pris 3 cours à l'orgue sur la très belle orgue historique de la Walseker, qui puis un cours de clavecin sur un de ses clavecins dans son immeuble patricien. Forcément, c'était des cours que je préparais avec beaucoup de soin et de je lui apportais des répertoires assez variés. Et j'ai un souvenir de chacun de ces cours. Je pourrais dire à chacun de ces cours ce que j'ai joué, ce qu'il m'a dit, les éléments que j'ai notés, parfois quelques-unes de ses indications dans les partitions. Donc, ce sont des moments absolument privilégiés.
Ouais. Ce qu'on appelle un maître, quand on se souvient absolument. De tout. Et tout porte.
Exactement.
Comment ça se fait comment on devient comme ça? Comment on devient un maître? Ce n'est pas un objectif dans la vie non plus. Enfin, qu'est-ce qui fait que ces gens-là sont comme ça?
Oui, il y a une sorte d'évidence. Alors, peut-être que dans le cas de Gustave Leonhardt, cette dimension, cette maîtrise est à la fois une maîtrise instrumentale et artistique. C'est aussi une forme de maîtrise... par la connaissance absolument hallucinante qu'il avait de tous les arts de l'époque baroque, hein, de l'architecture, de la peinture. Il était capable de parler de la peinture italienne ou flamande ou française, même de très petits maîtres avec une très très grande précision. Alors ça, c'est peut-être une chose qui nous différencie, c'est qu'on avait parfois le sentiment qu'il vivait dans cette époque-là. Ouais. Ce qui n'est pas du tout mon cas, mais j'étais absolument fasciné de ce rapport. Et je pense que s'il avait rencontré Froberger au détour d'une rue d'Amsterdam, il lui aurait parlé comme s'il s'était vu la veille à un banquet, si vous voulez. Il y avait l'évidence de cette époque et de cette dimension interdisciplinaire.
C'est marrant ce que vous dites, comme s'il y avait finalement des sortes de conflits temporels. Tout d'un coup, paf, un météore du 18e qui arrive chez nous, qui s'appelle Gustave Leonhardt. Est-ce que vous définissez d'ailleurs tout à l'heure comme un baroqueux, Bernard Faucroul, dans le modèle de musicien? Vous me dites, vous êtes quand même bien un homme de votre temps.
Oui, je me souviens, en 79, j'avais donné un concert à Toulouse. J'avais fait une transcription des pièces de Schoenberg, des pièces de l'Opus 19, des pièces de Klavierstück de 19. Et Leonhardt était là, et je lui demande après le concert, comment il a trouvé certains aspects de l'interprétation, et je lui demande, et le Schoenberg, alors il me dit, alors là, pour moi, ça, je ne peux absolument rien en dire. C'était complètement en dehors de son
univers. Même pas du mal.
Ni du bien, ni du mal. Enfin, je pense surtout pas du bien, mais bon. Alors que, par exemple, les frères Koeken étaient, quant à eux, beaucoup plus engagés dans la musique contemporaine, faisaient partie de l'ensemble musique nouvelle, et que toute une série de baroqueux de la première génération, la première et la deuxième génération, sont des musiciens qui ont été des passeurs, qui, faisaient quelque part tâche d'exploration dans le domaine baroque comme dans le domaine contemporain. Et c'est sans doute je me souviens d'alors, de beaucoup plus récemment, il y a une quinzaine d'années, d'avoir passé, l'avait invité avec son épouse à la maison, l'occasion d'un concert qu'il donnait à la Monnaie. Et on avait une discussion, comme j'en ai souvent avec des collègues de la musique baroque, sur le monde de l'opéra. Et il y avait évidemment nous avions des vues absolument opposées sur la question de l'opéra aujourd'hui, ouais, et sur la dimension de la dramaturgie. Lui rêvait, mais de manière très explicite, de reconstitution à l'ancienne, et je lui disais que ce qu'il avait fait dans le domaine musical n'était pas de l'ordre de la reconstitution, mais de l'ordre de la recréation. J'ai donc un tout autre point de vue, mais la plus grande admiration pour tout ce qu'il a fait.
Donc Bernard Faucroul n'est pas un baroqueux, mais quand il fait des choix, quand même, ça porte sur la période. Le choix de disque du jour, je ne vous dis pas ce que c'est, si je vous le dis, c'est Amandine Beyer, qu'on a entendu 15 fois, non pas 15 fois, mais au moins 3-4 fois le début de la saison par des musiciens qui la respectent immensément. Pourquoi Jean-Sébastien Bach, cette intégrale des sonates et partitas, on comprend bien. Thank you. La gavotte en rondo de la troisième partita pour violon seul de Jean-Sébastien Bach, c'est le choix CD du jour de Bernard Faucroul. Et au violon, nous avions là Amandine Beyer pour son intégrale d'il y a 3 ans. Bah oui, comme 3 ans seulement, comme quoi la musique ça évolue, ce qu'on appelle les baroques ça évolue aussi. Vous n'êtes pas le premier musicien à me proposer, comme je le disais tout à l'heure, Bernard, ce disque d'Amandine Beyer. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose avec cet enregistrement-là, qu'il marque un point important.
Absolument. Moi, je suis absolument sidéré de la qualité de cette interprétation d'Amandine Beyer, de l'évidence, du naturel. Bon, ce qu'on vient d'entendre, c'est aussi une leçon sur le plan de la danse, de l'accentuation. On a l'impression que les difficultés techniques sont quand même redoutables dans ces pièces pour violon seul, sont complètement maîtrisées, elles sont derrière soi, je dirais. Et puis, ça chante. Et c'est quand même la plus belle chose que l'on puisse... attendre d'un musicien, et notamment d'un ou d'une violoniste, c'est que ça chante, et ça chante en permanence.
France Musique. Il est midi 22, vous écoutez le magazine avec aujourd'hui Bernard Faucroul et le questionnaire de Proust que je vous ai proposé. Bernard, vous avez répondu à plein de questions. Votre occupation préférée, vous m'étonnez, moi je croyais que c'était jouer de l'orgue, mais non.
Oui, moi j'ai pris votre question plutôt comme effectivement en dehors du travail professionnel. C'est vrai que jouer de l'orgue est une occupation qui me comble, mais là j'ai choisi plutôt la marche. Le rapport à la nature est une chose qui m'est absolument indispensable, et que ça soit la montagne ou la nature sous d'autres formes, c'est quelque chose qui est absolument essentiel à mes yeux.
Vous avez le temps de ça quand même ?
Je le prends.
On le prend.
Voilà.
Il n'y a qu'à le prendre. Est-ce que vous dormez beaucoup d'ailleurs ? Tiens, ça, c'est pas une question de Proust, mais c'est quand même lié à lui qui dormait si mal.
Je dors plutôt bien, oui.
Ah, plutôt bien, longtemps ?
Ouais. Oui.
Vous faites vos 4 heures par jour ou vos 8 heures ?
Plus près des 8.
D'accord.
Mais enfin, sans y arriver. Hein, mais
ouais. Voilà. Donc, bien organisé. Bon, votre auteur favori, là, c'est bien une question de Proust. Et là, vous ne choisissez pas des romanciers, mais des poètes. Ça,
oui.
C'est presque rare.
Alors, il y a évidemment plein de romanciers que je pourrais citer, mais j'ai choisi volontiers 2 poètes. Je trouve difficile d'en retenir qu'un. Il y a un poète européen qui est Rilke, qui est tellement exceptionnel à la fois sur le plan de l'écriture, mais aussi de la réflexion sur l'art, sur le rapport de l'art, de la société, enfin, à la fois ses pages sur Cézanne, mais son écriture absolument sublime. Et puis Mahmoud Darwish, parce que dans le cours des dernières peut-être 10 ou 15 années, c'est sans doute le poète qui m'a le plus touché, qui m'a le plus nourri, venant d'un autre monde, hein. Il est palestinien, il écrit sur l'Andalousie, il écrit sur l'exil, non pas l'exil d'un peuple, mais l'exil que tout être humain finalement vit et assume d'une manière ou d'une autre sur cette terre. Et c'est sans doute parmi les pages les plus bouleversantes que j'ai lues.
Marrant que vous citiez des poètes comme sous la parole poétique aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'elle est véritablement droit de citer. Hein. C'est compliqué, hein. S'il y a une
chez
parole
nous,
complexe.
Chez nous, Lionel, parce que je rentre d'Abu Dhabi, là, j'étais hier avant-hier, et on me disait à quel point c'est plus facile là-bas de remplir des salles avec les poètes et la poésie qu'avec la musique.
D'accord.
Voilà, donc il y a aujourd'hui dans le monde arabe une grande tradition poétique qui est restée très 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 vivante, on remplit des stades de football pour des récitals de poésie. Et je trouve que ça nous donne d'ailleurs à réfléchir sur cette transmission orale qui a gardé une sorte de vie absolument palpable dans l'écriture poétique, et qui est une des choses qui, moi, me passionne beaucoup dans ce rapport à l'oralité dans la Méditerranée.
Qu'est-ce que vous détestez par-dessus tout ? On peut dire que c'était plusieurs choses, peut-être ?
Alors, de manière générale, j'ai toujours été très, très démuni et complètement irrité par la mauvaise foi. Mais aujourd'hui, c'est évidemment le fanatisme que je vais citer en premier. Je pense qu'il y a d'ailleurs une très grande part de mauvaise foi dans le fanatisme, hein, dans cette sorte de refus de la réalité, de haine. Voilà, je pense que... c'est quelque chose de très, très problématique, et je pense qu'il faut aussi accepter que ça n'est pas uniquement le fanatisme des autres, c'est aussi la part de fanatisme que nous portons en nous, dans notre culture, dans notre manière de concevoir le monde. Donc c'est peut-être un exercice aujourd'hui à conduire collectivement, de tenter de résorber ces poches de fanatisme partout où elles se trouvent.
Même à l'intérieur de soi. Les fautes qui vous inspirent le plus d'indulgence ?
Les fautes,
alors vous m'avez répondu, celle de l'enthousiasme de la jeunesse.
Voilà, oui. Mais c'est vrai, si vous voulez, que ce soit dans le domaine artistique ou dans le domaine, par exemple, de l'organisation d'un festival ou des choses d'aujourd'hui, je trouve que les fautes, quand elles sont commises par des jeunes pleins d'enthousiasme, c'est quelque part, c'est magnifique et ça participe. On en a besoin. Et je pense que notre société européenne aujourd'hui, devrait donner plus d'espace aux jeunes artistes, pour qu'ils puissent à la fois faire leur faute, qu'ils puissent se tromper, mais que à travers ces fautes, il y ait des choses qui nous fassent tous grandir.
Enfin, c'est peut-être du déchet, hein, quand on fait.
Absolument. Ouais. Quand on fait acte de création, forcément, on prend des risques. Tout ce qui peut venir de ces ou aussi de l'enthousiasme ou de l'enthousiasme militant, il peut y avoir des erreurs. Je pense qu'elles ne sont pas graves.
Il faut les accueillir.
Il faut les prendre à bras le corps.
Dernière question, je vais juste le signaler. Ce que vous voudriez être, vous me répondez, un passeur. De toute façon, vous l'êtes. Vous l'êtes déjà.
C'est vrai, après on peut toujours rêver de l'être plus et de l'être mieux.
Oui.
C'est vrai que tout artiste, quelque part, a un rôle de passeur, et que dans ma fonction de directeur de festival aujourd'hui, ce rôle-là, il est particulièrement important. Et c'est d'ailleurs comme ça que je le conçois, beaucoup plus qu'en termes d'organisateur ou de manager, mais c'est plutôt d'être quelqu'un qui joue un rôle de passeur entre des communautés artistiques et des spectateurs, entre des artistes qui sont au sommet de leur art, des très grands chefs, très grands chanteurs ou metteurs en scène, et de jeunes artistes qui sont en plein développement. C'est un immense bonheur d'être dans ce travail de passeur.
On y reviendra tout à l'heure à Aix-en-Provence, mais pour l'instant, allons vers votre dernier disque, Bernard Foucroul, le dernier disque d'organiste. Il est consacré à un certain Matthias Weckmann. C'est Bernard Foucroul qu'on entendait sur l'orgue de l'église Sancta Catharina de Hambourg, dont cette pièce de Matthias Weckmann, les dernières mesures du Holux Beata Trinitas, étonnante avec les chromatismes très expressifs. On va préciser que Weckmann était né en 1616, c'est donc deux, trois générations avant Jean-Sébastien Bach. On a un langage qui est vraiment très étonnant ici, Bernard.
C'est une personnalité absolument extraordinaire, Wickman. C'est un compositeur qui est trop méconnu aujourd'hui, parce que, ceci c'est le dernier verset d'un immense cycle qui dure à peu près 25 minutes, consacré au choral Beata Lux Trinitas. C'est d'ailleurs une musique qui, encore aujourd'hui, nous pose des questions. D'où vient ce chromatisme? Qu'est-ce qu'il signifie exactement? On en est réduit un peu à des hypothèses, mais il est très probable que dans ce grand cycle, Wickman illustre des théories de Kircher, d'un grand théoricien du milieu du XVIIe siècle, qui voyait l'orgue comme une sorte de création, comme une image, on va plutôt dire, de la création. Et les différents versets de ce choral illustrant les différentes phases de la création, d'accord, avec un grand C. Alors, ce qui est très étrange, c'est qu'au lieu de terminer ça dans un verset plutôt triomphal, hein, on a cette sorte de chromatisme qui s'insinue ici et là et qui vient... qui a une dimension à la fois peut-être de souffrance, peut-être... Voilà. Donc, est-ce que, par là, le compositeur laisse entendre que la création ne se termine pas forcément sous un jour parfaitement harmonieux, c'est plus ambigu. C'est une question qu'on peut se poser.
C'est étrange parce qu'on parle toujours de rhétorique chez Jean-Sébastien Bach, comme c'était le premier compositeur qui ait pensé en musique, mais pas du tout. On pensait déjà énormément avant lui, il faut s'en rendre bien compte.
Absolument. Wickman, c'est un élève de Schütz, c'est quelqu'un qui, dans sa musique vocale, dans la musique instrumentale, la musique clavecin est absolument magnifique aussi. Et cette musique d'orgue nous emmène vraiment à un niveau qui ne sera jamais dépassé. Certaines des pages de Wickman, pour moi, sont de la qualité de l'art de la fugue sur le plan de la complexité du contrepoint et puis d'une manière aussi d'être au-dessus de son temps. Il est à la fois complètement dans son temps, mais il est aussi, il se rattache à des traditions beaucoup plus anciennes. Et un peu comme Bach dans l'art de la fugue, il anticipe sur... c'est pas un musicien à la mode, si vous voulez.
Et là, on a vu une pièce relativement austère, mais c'est très varié aussi. Il y a des petites grandes zones là, que vous mettez de temps en temps dans ce programme-là, qui se prend presque toujours dans l'extrême aigu, comme ça, très volubile, très étrange, et qui semble justement relié à rien, en tout cas peut-être en arrière. Mais Jean-Sébastien Bach, c'est une autre tradition finalement. Il ne faut pas tout ramener l'orgue germanique à lui.
Non, même si il y a un certain nombre de choses dans l'œuvre de Bach qui se rattachent très clairement à Wickman, par exemple l'utilisation du double pédalier. Les deux pieds jouant simultanément une voix, Wickman est sans doute le compositeur avant Bach qui a porté cette technique de la manière la plus avancée, la plus virtuose à la fois en termes de pensée musicale et d'exécution. Et puis il y a pas mal d'autres choses qui sont passées jusqu'à Bach, même si on n'a pas aujourd'hui d'évidence sur la connaissance que Bach avait. On n'a pas de manuscrit de Wickman retranscrit par Bach directement, par exemple.
Mathias Wickman, l'œuvre pour orgue complète, c'est donc gravé par Bernard Faucroule pour le label Richard Carr, en deux disques, hein, c'est plus facile que l'intégrale Bach ou que la Buxtehude, là c'est quand même de longue haleine, alors que bon, là tout de même, très belle musique aussi à suivre. On part à Aix-en-Provence ?
Volontiers.
Thank you.
Dans le corps comme des coups de poignard, c'est les imprécations d'Electra dans l'opéra de Richard Strauss, ici chanté par Evelyn Erlitzius. C'était à Aix-en-Provence en 2013. Énorme spectacle qui était mis en scène par Patrice Chéreau, dirigé par Esa-Pekka Salonen. J'imagine que c'est un souvenir, ça, quand même, Bernard. Hein, déjà, parce que quand on a fait un spectacle comme ça, parce que ça, c'est vous qui l'avez fait à Aix, on peut être content de soi, mais en plus, quand on a des personnages comme Salonen, Chéreau.
Ah, c'est un souvenir absolument inouï, indélébile, parce que. Je dirais, chaque élément en soi était absolument subjuguant. Le travail de Chéreau, la présence physique et vocale des chanteuses dès les premières répétitions. Il y avait quelque chose d'absolument magique qui se passait. Mais surtout, moi, ce que je retiens, c'est l'extraordinaire dialogue silencieux pour l'essentiel, le plus souvent silencieux, entre Salonen, Chéreau, et cette manière de faire et de penser l'opéra, où la musique est en permanence à l'écoute du drame, et où le drame est en permanence source d'expression musicale, de gestes, de rapport à l'espace. Et donc, on oublie que l'on est dans telle ou telle discipline, et ça, c'est vraiment la marque de l'opéra. On est au-delà, si vous voulez. Et je me souviens que dans les répétitions, en particulier dans les répétitions au piano, là où le chef d'orchestre n'a pas tellement à faire, finalement, Salonen était là avec une intensité de regard par rapport à ce que Chéreau était en train de dessiner, d'approfondir, de sculpter avec ses interprètes. Et j'en garde un très grand souvenir, à la fois, bien sûr, du travail de Patrice Chéreau, qui est absolument inoubliable, mais aussi de cette complicité plutôt silencieuse entre ces grands artistes.
Complicité, dialogue silencieux, on a envie de vous dire, mais comment ça dialogue, alors, si ça reste dans le silence?
Ben, forcément, il y a des choses qui se disent, mais vous savez, les choses importantes dans la vie ne se disent pas forcément. Elles peuvent se passer, et de ce point de vue-là, les artistes ont une capacité à s'exprimer, parfois par un geste, un regard. Et Salonen, qui n'est pas un bavard, peut être extraordinairement expressif dans son geste devant l'orchestre, mais aussi dans son regard sur une répétition. Et je suis toujours, moi, assez bouleversé de voir l'attention que les grands chefs d'opéra accordent, non pas uniquement à leur travail avec l'orchestre et les chanteurs, mais aussi au travail du metteur en scène. Et à ce moment où les choses sont justement en train de se chercher, là aussi il peut y avoir des erreurs, des choses que l'on va essayer et puis qu'on va abandonner. C'est une sorte, on est dans le laboratoire de l'artiste, dans son atelier, sauf que c'est un travail collectif.
Les grands artistes, c'est des bêtes, hein. Enfin des bêtes, des animaux, quoi, dans la manière d'appréhender le monde.
Oui, il y a une sorte de... Le rapport avec le côté animal que vous soulignez, il est juste, c'est-à-dire que l'animal ne s'exprime pas non plus par la parole, mais il est extraordinairement expressif. Et il y a peut-être d'ailleurs dans le chant, chez les grands chanteurs, quelque chose d'animal dans la définition la plus noble, de quelque chose qui vous traverse et qu'on n'arriverait pas d'ailleurs à réduire avec des paroles. Donc si ce n'est peut-être des paroles poétiques.
On va parler du Festival d'Aix-en-Provence 2015, hein, qui sera au mois de juillet, en écoutant d'abord un artiste qui lui aussi est très particulier, c'est Théodore Currensis, chef d'orchestre magnifique. Vous allez le faire venir cet été, donc, ce n'est pas une forme d'hommage aussi à Gérard Mortier, d'une certaine manière, parce que c'est lui qui pas qui l'a amené à l'opéra, mais qui enfin nous l'a un peu découvert aussi, Currensis.
Alors, vous avez raison de souligner qu'il y aura implicitement un double hommage à Gérard Mortier à travers cette production de Yolanta et de Perséphone, Yolanta de Tchaïkovski, Perséphone de Stravinsky, puisque ce sera pour nous la première occasion d'inviter Currensis, qui était très proche de Mortier tout au long de ces dernières années, mais aussi de faire revenir Peter Sellers, qui est certainement l'un des metteurs en scène les plus proches de Mortier pendant tout son travail. Voilà, c'est une production que Gérard Mortier a présentée au Théâtre Real à Madrid et qui n'a jamais été reprise. Et j'ai trouvé que c'était bien, d'ailleurs, avant le décès de Gérard Mortier, que la décision a été prise. Je trouvais que c'était une production exemplaire à beaucoup d'égards. Et donc voilà, ça sera entre-temps, on pourrait dire que ça devient un hommage à Gérard Mortier.
Théodore Currensis, qui dirige donc Yolanta. De ce spectacle signé Théodore Currensis et Peter Sellars, Yolanta de Tchaïkovski et Perséphone d'Igor Stravinsky. Il n'y a pas d'orchestre, mais il faut dire que c'était un chœur qui avait été interprété interpellés, si j'ose dire, par les deux artistes, hein, au milieu de leur propre spectacle, un chœur de Tchaïkovski, lui-même, spectacle mémorable à Madrid en 2012, et qu'on reverra donc, c'est une très bonne chose, au Festival d'Aix-en-Provence, 67e édition déjà, en 2015, au mois de juillet, du 2 juillet au 23 juillet. France Musique y sera bien sûr, parce que nous serons partenaires du festival cette année, comme les précédentes, mais cette année, je crois, un petit peu plus. Nous transmettrons l'essentiel des représentations et on y sera sur place, bien évidemment. Au programme de tout ça, évidemment du Mozart, hein, Bernard, un enlèvement au Sérail. On ne peut pas faire un festival d'Aix sans un Mozart, ça ne se conçoit pas.
Absolument. Alors c'est un Mozart que Jérémy Rohrer va diriger et que Martin Couchet va mettre en scène. Jérémy est vraiment, à mes yeux, l'un des plus mozartiens des chefs actuel, pas seulement en France, mais en Europe et dans le monde. Donc on est ravis de l'inviter à nouveau. Il dirigera le Freiburger Baroque Orchestre, qui est en résidence ces années-ci. Et puis Martin
Couchet... Et qui nous avait fait, pardon, le Flûte Enchantée l'an dernier. Hein. C'est bien exactement. Hein, mémorable également.
Absolument. Nous aurons Alcina de Händel, qui va continuer une sorte de cycle endélien que nous avons entamé l'année dernière avec Ario Dante. Et cette année-ci, Patricia Petitbon et Philippe Jaroussky seront de la partie sous la baguette d'Andrea Marcon et dans une mise en scène de Katie Mitchell. Mm-hmm. Katie Mitchell qui est dans une sorte de résidence pluriannuelle au festival.
Donc je connais son nom, Katie Mitchell. Elle a fait quoi déjà avec Aix-en-Provence, je ne sais plus.
Written on Skin, par exemple.
Le Benjamin.
Le Benjamin, ou bien l'année dernière, les cantates de Bach avec Raphaël Pichon, Trauernacht, ou encore la création de Vasco Mendonça en 2013. Donc voilà, une grande dame du monde du théâtre qui revient à Aix. Et puis, un spectacle mythique qui a, je pense, fait à la fois la gloire de son metteur en scène, Robert Carsen, et du Festival d'Aix. C'est sans doute le spectacle qui a le plus tourné dans le monde. C'est Le Songe d'une nuit d'été, le Midsummer Night's Dream de Britain, créé à Aix en 91. Alors, c'est tout à fait rarissime que le festival reprenne des spectacles aussi anciens, mais je pense que c'est une manière de, voilà, plutôt que de refaire un songe d'aujourd'hui, relisons celui de Carsen sous les étoiles à l'archevêché, et je crois que ce sera un grand moment.
C'est lui qui le relira d'ailleurs, qui reverra sa mise en scène.
Bien sûr. D'ailleurs, il m'avait dit avec beaucoup de force de conviction que... Je trouvais que ce serait formidable de reprendre ce spectacle là où il était né. Et donc, ça sera pour nous un immense plaisir de l'accompagner dans cette reprise.
À la fois de la reprise du nouveau, puis une manière de faire histoire aussi. C'est important, on le sait, exactement, avec les institutions, d'arriver à créer quelque chose sous cet angle-là. Le détail du programme, le programme, on l'a depuis pas mal de temps, depuis le festival de cet été d'ailleurs, mais enfin, le programme total, il sera disponible fin janvier. Et je vous le signale pour la billetterie à partir du 2 février, si vous voulez être aixois cet été.
France Musique.
Avant de fermer cette émission, Bernard Faucroul, un autre disque qui nous est arrivé ces derniers temps, chez Outer également, mais version E.ON, qui est le label plutôt consacré à la musique d'aujourd'hui et à votre versant compositeur, quoique vous soyez aussi organiste de vos œuvres sur ce disque-là. Et on reconnaît, on n'en a pas parlé dans cette émission, mais d'autres fois, votre amour des orgues historiques, enfin ça c'est une maladie d'organiste dans tous les cas, d'aimer les bêtes anciennes qu'on trouve dans des églises poussiéreuses. Faut dire, ces orgues historiques, on peut les jouer, mais on peut aussi composer pour eux, c'est ce que vous faites depuis des années, hein.
Oui, c'est une sorte de cycle que j'ai entamé à la fin des années 80, en me rendant compte que la plupart de ces instruments que j'adore, hein, que chaque orgue historique, c'est comme une personne qui nous vient d'il y a très longtemps, et qui nous fait vivre la musique. Quand on trouve un instrument du XVIe siècle et que l'on peut entendre la musique telle qu'elle sonnait au XVIe siècle, c'est tout de même un privilège à notre époque. Mais de pouvoir entendre sur ces instruments, pas uniquement la musique de leur époque, mais aussi de les faire résonner dans des langages plus proches de notre époque, c'est quelque chose qui m'a beaucoup captivé, et de fil en aiguille, j'ai écrit une série d'œuvres qui se retrouvent sur cet enregistrement.
Alors, je vous traitais de baroque tout à l'heure, vous n'en vouliez pas trop, enfin, comme si comme ça, on va écouter ici un Nigra Sum, où vous écrivez quand même pour une soprano, bon, ça traverse les périodes, mais pour un cornet. Alors, quand même, dites-moi, quoi, et puis avec un langage que vous adaptez à quelque chose qui est de cet ordre-là, en plus, hein.
Alors, ce Nigra Sum, effectivement, c'est une... n'est pas pour orgue seul, mais... soprano, cornet et orgue. Et on le sait, le texte d'Enigrassum, c'est un texte qui vient du Cantique des Cantiques, donc j'ai souhaité explorer une dimension un petit peu orientalisante dans ce texte absolument magnifique. Et le cornet et la voix, enfin, le cornet c'est l'instrument le plus vocal que l'on puisse imaginer, et donc de travailler sur ces moments où la voix et l'instrument se fondent. C'était un grand bonheur.
Un extrait du Nigrassum de Bernard Faucroul, c'était le compositeur lui-même qui était à l'orgue. Alice Faucroul, soprano, c'est qui Alice? C'est votre fille, c'est ça?
C'est ma fille.
D'accord, qui est soprano, je ne savais pas. D'accord, bien. Et puis Lambert Colson qui était au cornet pour cette pièce assez magique quand même. Hein. C'est assez beau les sonorités qu'on arrive à tirer du mélange des trois là. Enfin, que vous arrivez à tirer en l'espèce.
La voix et le cornet, je trouve ça absolument sublime. Et d'arriver à essayer que l'orgue chante comme la voix et le cornet, c'est évidemment... un défi.
Ah ouais, c'est de toute façon que les instruments à soufflerie, tout ça, hein, que ce soit votre orgue ou tout ça. Vous composez encore beaucoup, Bernard, oui, parce que cette pièce-là date de 2012, donc...
Oui, je suis... J'essaie de garder un travail de composition aussi régulier que possible, mais très franchement, c'est compliqué à garder en même temps que le festival, donc ça vient plutôt dans les périodes... De congé.
C'est ça. Vous êtes un compositeur d'été, comme disait Gustave Mahler, mais vous, c'est plutôt d'hiver du coup. Bon, du coup, on fait les créations des autres. Ce sera quoi d'ailleurs, juste en deux mots, la création cet été à Aix?
Deux créations d'opéra cet été. Une création d'Anna Sokolovitch qui s'appelle Svadba. Petite pièce magnifique pour six voix de femmes, inspirée de rituels de mariage. Une pièce absolument charmante. Et puis, Le monstre du labyrinthe de Jonathan Dove, mm-hmm. un projet qui sera dirigé par Sir Simon Rattle, associant des musiciens du LSO, des musiciens de l'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée et pas moins de 300 chanteurs de la région aixoise, des enfants, des ados et des adultes.
Et qui feront Le labyrinthe ou Le monstre, sait-on jamais. Merci Bernard Foucault. Cette émission a été préparée par Yannick Fage, réalisée par Antoine Courtin, avec aujourd'hui Cécile Gissot et Thomas Bizot. Demain, c'est vendredi, donc le casque et l'enclume, c'est la séance que ni les musiciens ni les patrons de festivals ni d'opéra n'aiment, la séance critique du magazine et de France Musique. Eh bien, demain, nous parlerons de l'ouverture de la Philharmonie de Paris qui a eu lieu hier soir. Nous y étions, compte rendu, demain midi.